Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, pour ceux qui doivent partir en week-end, attendez un peu, je vous promets une demi-heure très animée avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être avec nous. Laurent Alexandre, bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonsoir, merci d'être avec nous, médecin, entrepreneur et puis donc auteur, alors plusieurs livres, hein, si je crois, c'est le combienième celui-ci?
C'est le 13e.
13e livre, et d'ailleurs il y en avait déjà eu un, La mort de la mort, hein,
oui,
parce
oui.
qu'on va revenir dessus. Et donc merci d'être avec nous, ce livre s'appelle Vivre 1000 ans aux éditions Buchet-Chastel, il sera en vente à partir du 14 mai, c'est bien ça. Et il a été coécrit justement avec Alexandre Tsikopoulos. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre, merci d'être avec nous. Start-upper, c'est comme ça qu'on peut. Voilà. Et donc co-auteur de ce livre. Pourquoi, alors vous allez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de le coécrire ensemble. Alors si on vous suit sur les réseaux sociaux, on voit que voilà, vous faites un jeu de ping-pong, vous êtes tous les deux des techno-progressistes. Et cet ouvrage est vraiment intéressant. Alors, pour tout vous dire, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, est-ce qu'il faut lire ce livre? Alors il m'a dit, je vais être très bref, il m'a dit, je trouve que Vivre 1000 ans a le mérite de poser des questions vertigineuses, très actuelles sur le croisement entre IA, biotech, pouvoir. Le livre est stimulant intellectuellement, parfois provocateur, mais aussi marqué par un certain techno-déterminisme qui tend à sous-estimer les freins politiques, sociobiologiques. Sa vraie force n'est pas tant de prédire l'avenir que d'obliger le lecteur à réfléchir. Voilà, ça c'était la partie. Et je lui ai quand même dit, et si tu devais le critiquer? Il m'a dit, ah, la critique principale, c'est de ce livre confond parfois vitesse du progrès technologique et la capacité réelle des sociétés à absorber ces ruptures. Voilà un peu la vision. Alors, je sais pas s'il l'a lu en entier. Moi, j'ai pas mal parcouru cet ouvrage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va parler un peu de la mort de la mort, on est à la veille de l'Ascension, tiens, où Jésus monte aux cieux justement pour cette vie éternelle. Et puis il y a plein de choses dans ce livre, parce qu'on se souvient, il y a quelques mois, on parlait là de Donald Trump avec Xi Jinping, c'était Xi Jinping et Vladimir Poutine qui s'étaient, on avait surpris à un bout de leur... Vous en parlez d'ailleurs dans le livre.
Une discussion. La télévision chinoise n'avait pas coupé les micros.
Voilà, et ils disent, oui, alors tu fais quoi? Ils avaient parlé de transhumanisme, hein, carrément.
Des organes artificiels et de la possibilité de l'immortalité.
Alors, déjà, première chose, pourquoi avoir décidé de faire ce livre tous les deux?
Pour une raison simple.
Laurent.
On a voulu montrer le décalage de perception psychologique intime qu'on avait quand on était vieux comme moi et puis jeune comme Alexandre.
40 ans d'écart.
Avec des préoccupations qui sont différentes. Moi, je sors du marché du travail, je me rapproche de chez Orpea et puis Alexandre rentre sur le marché du travail à un moment où les jeunes sont angoissés. On l'a vu avec les deux tentatives d'assassinat de Sam Altman aux États-Unis.
Exactement, oui.
Avec un manifeste par l'un des assassins potentiels fait par un jeune de 20 ans qui exprimait sa haine de l'IA et sa volonté de lutter contre l'IA avant qu'il soit trop tard, selon ses propres mots. Et puis on voit dans les sondages qui sont sortis le Gallup de mars dernier, où la génération d'Alexandre exprime sa peur, son angoisse, sa colère contre l'IA avec des pourcentages qui ont beaucoup, beaucoup augmenté. Sur un an, l'angoisse et la colère des jeunes Américains face à l'IA a pris 14 points. Oui. La jeune génération a vraiment peur aujourd'hui d'être déstabilisée sur le marché du travail. Et donc, on a voulu montrer que finalement, selon l'âge, on n'a pas le même rapport psychologique avec l'IA.
Moi, c'est ce qui m'a marqué. À un moment dans le livre, on dit, voilà, le vieux, voilà, l'ancien a peur de mourir, le jeune a peur d'être inutile. C'est ça, Alexandre?
Tout à fait. Peur de l'inutilité, c'est assez compréhensible. Laurent le rappelait, ma génération, il y a une certaine colère qui se met en place face au développement de l'intelligence artificielle qui est tout à fait compréhensible, parce que lorsque vous industrialisez l'intelligence sans penser une seule seconde à ses conséquences sociales, politiques, c'est un drame, car la réalité, c'est lorsqu'on industrialise cette intelligence que l'on met en place des machines plus intelligentes que l'homme, plus rapides que l'homme, coûtant moins cher. C'est ma génération qui est directement impactée, car l'intelligence artificielle s'attaque au bas de la pyramide. Elle s'attaque aux tâches d'entrée de gamme, celles qui nous permettaient d'apprendre un métier.
On dit beaucoup hein, dans le milieu de la finance, de la comptabilité, dans le milieu du conseil, dans le milieu des avocats.
On le voit très bien aux États-Unis, notamment le recrutement chez les jeunes est en train de baisser, mais ce qui est tout à fait compréhensible, parce que justement, c'est ce que je disais, l'intelligence artificielle s'attaque aux tâches d'entrée de gamme, celles qui peuvent être automatisées, et donc c'est directement les jeunes qui sont concernés par l'intelligence artificielle. Et en réalité, l'intelligence artificielle aujourd'hui, et on le voit, elle renforce les positions des seniors qui sont déjà en place.
Ouais, je disais, il y avait une citation, j'ai retrouvé d'Oscar Wilde qui disait « Avec l'âge vient la sagesse, mais parfois l'âge vient seul. » J'ai trouvé que c'était assez amusant. Comme... Alors justement, dans le début, alors c'est, je ne sais pas si c'est le premier chapitre ou le prélude, ça s'appelle « Vertige », parce qu'évidemment, on a un peu le vertige avec toutes ces technologies. Laurent, deux frontières se fissurent en même temps, l'IA devenue abondante et la mort devenue négociable. Et c'est ça qui va tout transformer. C'est un peu ça qui est la base
générationnelle. On avait des vies très courtes qui ont commencé à allonger. Parce que sous Louis XV, en France, l'espérance de vie des hommes était de 25 ans et l'espérance de vie des femmes était de 27 ans. Oui. Donc ça a triplé. Oui. On a déjà un peu gagné. Mais là, la Silicon Valley nous promet un doublement de l'espérance de vie très vite. Elon Musk a promis 150, 160 ans d'espérance de vie dès 2032-2035. Oui. Dario Amodei, créateur de Claude, et qui est aussi biologiste, promet un doublement de l'espérance de vie dans moins de 10 ans. Et puis Demis Hassabis, le prix Nobel de chimie 2024 et patron de toutes les IA de Google, garantit qu'entre 2035 et 2040, on va guérir la totalité des maladies humaines, tous les cancers, les maladies neurodégénératives. Et il assure
qu'avant... Et ça, c'est parce que la super IA...
Et il assure qu'avant 2040, on saura rajeunir les cellules, rajeunir les organismes et rajeunir nos corps. C'est-à-dire de, non pas de ne plus vieillir, mais d'anti-vieillir. Et c'est assez vertigineux, mais le prix à payer pour cela, si l'on écoute les gens de la Silicon Valley, c'est qu'il faut accepter la super intelligence artificielle.
C'est ça.
Car effectivement, le vieillissement est un phénomène très compliqué et sans super intelligence artielle, on ne pourra pas lutter contre le vieillissement. C'est quasiment un pari faustien.
Je comprends bien du coup, parce que j'avais une question sur un moment, la mort grignote, l'IA grignote la mort, c'était bien ça, j'essaie de retrouver dans toutes les notes, mais c'était ce qui était dit. Et alors, comment on fait ce lien justement, cette même question là sur cette IA abondante, donc pour nous tous, on va dire, là, et puis cette mort devenue négociable.
Laurent l'a rappelé, en moins de 3 siècles, l'espérance de vie a triplé, notamment chez les femmes et les hommes qui passaient de 1750 de 27 ans à aujourd'hui 85 ans pour les femmes, pour les hommes c'est un petit peu moins. Et le lien entre la mort de la mort et l'intelligence artificielle est directe. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de faire des progrès absolus dans le domaine médical. Je pense notamment à AlphaFold qui a découvert en 3 dimensions qui a découvert 200 millions de protéines en 3 dimensions en quelques semaines, alors qu'il aura fallu...
On doit être hyper enthousiaste quand on voit ça.
Alors, mais je suis hyper enthousiaste. Je ne dis pas que je veux mourir, bien sûr. Au contraire, vivre 1000 ans, je dis pourquoi pas, mais je dis à quel prix. Car si c'est pour vivre 1000 ans en étant un chimpanzé du futur, en ne comprenant plus rien, en n'ayant plus les mains sur les manettes, en étant dépassé par une machine, ça je n'en veux pas, c'est une dystopie absolue pour ma génération.
Il faut dire que on est dans une situation exceptionnelle. Jusqu'à présent, les vieillards comme moi étaient remplacés par les jeunes et disparaissaient. Aujourd'hui, les jeunes,
en ayant transmis,
ils ne sont pas dans l'attente de remplacer les vieillards, ils sont dans l'attente d'être remplacés par la super IA. C'est un changement radical pour la jeunesse, parce que être jeune avant, c'était tuer les vieux et prendre leur place. Maintenant, c'est se faire piquer la place par la super IA.
Avec un effet de transmission,
c'est quand même un choc.
Avec un effet de transmission, parce que les anciens transmettaient aux plus jeunes, et là, les plus jeunes disent pas la peine de me transmettre. J'ai déjà tout avec l'IA.
Les jeunes sont dépassés. J'exprime un témoignage psychologique à un moment dans le livre. Je me sens gilet jaune. C'est-à-dire, j'ai beau avoir fait beaucoup d'études, je suis dépassé par l'IA, je suis dépassé par les agents. Michel Lévy-Provençal ne cesse de m'expliquer que je suis un vieux con et que parce que je ne progresse pas assez vite sur OpenCloud et sur les différents agents. Donc oui, aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas être dépassé quand on a mon âge. Et ce sentiment de devenir un gilet jaune, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu paumé, dépassé par la technologie, il est très fort pour ma génération. Alors, la jeune génération a d'autres angoisses, mais finalement, face à l'IA, tout le monde est un peu angoissé parce que les choses vont plus vite. Depuis la sortie de GPT 3.5 le 30 novembre 2022, les choses vont plus vite qu'on l'imaginait.
Oui, alors il y a une bascule dans le livre. Février 2026, sommet AI Impact à New Delhi. Moi, je pensais... Alors, évidemment, il y a une première bascule. Enfin, il y a novembre 2022, sortie de ChatGPT.
Non, mais c'est la première fois que les spécialistes de l'IA admettent que la super IA est proche.
D'accord, c'est ça.
Et qu'on bascule et que le dépassement cognitif de l'espèce humaine est là. Avant, on y imaginait la Super IA plutôt plus long terme, et on voit même des gens comme Demis Hassabis qui envisageait la Super IA à relativement long terme. Maintenant, il la voit assez proche. Donc, c'est vrai que en ce premier semestre 2026, il y a eu un basculement de l'opinion et des spécialistes de l'IA. Mais tout le monde ressent cette accélération actuelle, mais elle est entérinée par les gens qui construisent les modèles d'IA.
Alors, je sais qu'il y avait le précédent livre là qui a été écrit avec Olivier Babot. Oui, c'était Ne faites plus d'études. Voilà, je sais plus si c'était N'allez plus à l'école. Non, c'est Ne faites plus d'études. Justement, c'est ça qui peut être un peu angoissant, Alexandre, parce que auparavant, on avait un apprentissage, voilà, qui nous donnait des bases en mathématiques, en français, enfin, tout un tas de matières selon sa filière, en médecine, bien entendu, comme Laurent. Et puis, bon, voilà, on continue à se former. On avait cet apprentissage continu. Là, on est en apprentissage tout le temps, mais même à un moment, je quand même vous dites, on va avoir plusieurs vies.
Mais la réalité, c'est qu'on a menti à ma génération. On leur a dit que le diplôme, la formation allaient pouvoir les protéger, leur permettre de travailler pendant les 1000 prochaines années. La réalité, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant de diplômés et que le chômage chez les jeunes est en train d'augmenter.
Aujourd'hui, c'est
la réalité, c'est que les diplômes, on apprend des connaissances qui peuvent être automatisées par l'IA, qui sont obsolètes avant même l'obtention du diplôme. Mm-hmm. Et aujourd'hui, faire un diplôme de 5, 8, 10 ans, même pour les médecins, voire plus si on devient chirurgien, n'a aucun sens. L'OCDE l'a très bien dit. Aujourd'hui, une compétence tient 2 ans avant d'être disruptée. Alors qu'en 1987, c'était 30 ans. Donc, il y a un vrai changement à faire sur l'université. Et pour le moment, la classe politique n'y a pas réfléchi une seule seconde à faire en sorte que l'université nous prépare au métier de demain, nous prépare à la complémentarité avec l'intelligence artificielle.
Ça rejoint tout à fait ce que m'a dit le directeur de l'IPITA il y a quelques semaines. Il me disait, c'est la première fois que j'ai une telle fracture entre... Alors, c'est une école avec une prépa intégrée. Donc, les plus jeunes rentrent à 18 ans. Les plus... ils sortent à 23. Il me dit, c'est la première fois que j'ai une vraie fracture entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Il dit c'est complètement étonnant et donc ça rejoint
ceux qui sortent, ils ont appris à coder et ceux qui rentrent aujourd'hui, ils n'apprennent plus à coder.
Ouais. C'est, d'ailleurs, Arthur Mensch, qui était entendu hier par les députés,
il a dit ses craintes. Hein,
beaucoup de craintes.
Pour la première fois.
Et il disait, vous savez, même chez nous, les gens ne codent plus, ils sont orchestrateurs d'agents, ces agents qui codent, donc il faut apprendre à faire ça. Donc, individuellement, ils gagnent beaucoup de temps. Après, en équipe, il faut. Mais il a exprimé vraiment ses craintes sur l'emploi. C'est vrai que c'est ce qui est dit à un moment, ça avait étudié 15 ans pour un métier qui peut être disloqué par l'IA. Donc, comment il faut repenser l'école alors ?
Il faut des cursus plus courts. Par exemple, pour être médecin généraliste en France, maintenant c'est 10 ans d'études. Oui. Ça n'a aucun sens. Alors même que l'IA est supérieure au médecin. Et on voit que les études ne sont pas adaptées au fait qu'en médecine, intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence artificielle sans médecin pour faire un diagnostic. Ça prouve bien que les médecins ne sont pas complémentaires de l'IA, ils sont anti-complémentaires.
Et encore moins bon que médecin plus médecin.
Oui, ça c'est sûr que l'IA est meilleur que les médecins, mais c'est très troublant que l'IA plus médecins ce soit moins bien que l'IA sans médecins. Mm-hmm. Ça prouve que les études ne fonctionnent pas, qu'elles doivent être reconstruites. Mais c'est très difficile de changer les études. Une fois que c'est parti, de changer les cursus, de changer les méthodes est extrêmement compliqué. Puis l'école n'est pas adaptée à supporter un choc technologique aussi rapide, un tsunami aussi rapide. On change les programmes très lentement à l'université, on change les méthodes très lentement, ça prend des années, des décennies. Et là, on se retrouve en quelques années à avoir une obsolescence des méthodes et puis une obsolescence des métiers auxquels l'université préparait.
Donc c'est ça, ce livre, c'est de dire vivre 1000 ans, donc la mort, enfin on recule au maximum la mort, mais pour faire quoi? Et c'est là où on interroge les jeunes en disant, moi je suis d'accord, vivre... si je peux vivre en pleine forme jusqu'à 100 ans, voire plus, super, mais pour faire quoi? C'est ça la grande inquiétude.
Bien sûr, et puis il y a un autre risque, non seulement de déclassement face à l'intelligence artificielle, mais aussi de déclassement face aux humains qui seront sélectionnés et neuro-augmentés. Parce que la sélection embryonnaire, ce n'est pas de la science-fiction. Mm-hmm. Ça existe depuis 2024 avec Heliospec Genomics, qui était la première entreprise sur le marché, qui propose pour à peu près $50,000 de sélectionner le meilleur embryon avec le meilleur QI, la meilleure forme physique, enlever toutes les maladies génétiques. Et ça a commencé d'ailleurs.
Bienvenue à Gattaca.
On y est et c'est parfaitement autorisé aux États-Unis.
Ouais. D'ailleurs, la revue Science avait démontré que 38% des Américains se disaient prêts à faire de la sélection embryonnaire sur leurs propres enfants.
Pour qu'ils soient plus intelligents.
Mais ça veut dire que nos dirigeants, ils n'ont pas pris la mesure de tout cela, même s'ils sont alertés.
Voilà, nos dirigeants ne viennent pas de la tech, ils ne s'intéressent pas à la tech, ils n'utilisent pas la tech. Une grosse partie des dirigeants politiques, il y a quelques exceptions heureuses, hein, mais elles sont rares, n'utilisent pas ChatGPT, n'utilisent pas Claude, ne connaissent pas les outils, ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'IT, pas beaucoup à l'informatique. Donc ils n'ont pas vu arriver les enjeux. Et puis, il faut dire la vérité, les politiciens raisonnent plus sur leur réélection que sur la France de 2050. Mmh. C'est la raison pour laquelle on a pris tant de retard sur autant de chantiers, y compris un chantier qui intéresse beaucoup les jeunes, qui est le chantier de la retraite et le chantier de la réforme de l'enseignement.
Ah oui, et puis même nous, hein, moi je relisais le dans les médias là, le rapport du député Lalonc là sur le France Télé. On se rend compte qu'il n'y a pas du tout, on se projette pas, on est juste sur là aujourd'hui telle chaîne doit racheter telle chaîne. Enfin, on est dans des petits pansements peut-être. En plus, il y a beaucoup d'idéologie, mais enfin, mais derrière, on n'est pas en train de réfléchir à justement comment les jeunes s'informent aujourd'hui, comment et là il y a cette réflexion qui n'existe pas. Du coup, comment on réagit? Parce que c'est bien, parce que quand on suit toutes ces actualités, on retrouve dans le livre plein de choses dont on parle assez régulièrement. C'est le Alexander Wang, donc le patron recruté par Mark Zuckerberg, qui disait, moi je veux pas d'enfants, parce que
j'attends que les technologies d'augmentation soient au point.
Alexander Wang qui a vendu Skyline à Mark Zuckerberg pour 14,3 milliards de dollars, qui est le plus jeune autodidacte de l'histoire de l'humanité, milliardaire. Il a déclaré effectivement l'été dernier qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfants pour le moment, tant que les technologies de neuroaugmentation, donc qui permettent d'augmenter les capacités cérébrales des enfants, ne soient pas opérationnelles. C'est grâce à l'entreprise de Neuralink, en fait, on mettra des puces directement. Et du coup, ils pensent qu'aujourd'hui, faire des enfants, c'est les vouer à les envoyer directement au revenu universel, car ils seront non complémentaires de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est pourquoi ils préconisent d'attendre que ces technologies soient au point, avec la sélection embryonnaire, pour faire des enfants.
Et ça, du coup, ça vous interpelle, Alexandre?
Ah bah, ça m'interpelle totalement. Ouais. Ma génération doit se poser, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la question, faut-il faire des enfants aujourd'hui, leur donner le maximum d'amour, d'éducation, de cadre, ou alors leur donner le meilleur score? Ce qui pose des problèmes moraux absolus sur ma génération.
Il faut repenser complètement le sens collectif aussi, Laurent,
parce que si Bien sûr. Ouais. Bah, comme le dit Geoffrey Hinton, le prix Nobel de physique pour avoir inventé les réseaux de neurones profonds, nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre, nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre. C'est un changement civilisationnel, mais aussi un changement anthropologique. Donc là, on a des questions politiques, civilisationnelles et puis anthropologiques absolument profondes. Et le sens de l'humanité va être bouleversé. D'ailleurs, derrière, il y a un autre débat que vous connaissez bien, c'est qu'aux États-Unis, il y a des transhumanismes, il y a aussi des post-humanistes, notamment les dirigeants de Google pensent que l'espèce humaine a perdu la bataille et qu'il va falloir laisser la place à l'intelligence artificielle parce que le cerveau est complètement has-been. Et ça, c'est bouleversant. Hein. D'ailleurs, le biographe de Isaacson, le biographe d'Elon Musk, a très bien décrit comment les dirigeants de Google et Musk se sont fâchés là-dessus. Parce qu'à l'époque, Musk voulait sauver le cerveau humain. C'est pour ça qu'il a créé Neuralink pour augmenter le cerveau humain. Alors que les dirigeants de Google lui disaient, mais non, c'est foutu. La bataille entre l'IA et le cerveau humain est terminée. Il faut qu'on laisse la place. C'est-à-dire que finalement, dans la vision de beaucoup de gens dans la Silicon Valley, l'IA n'est pas un outil. C'est notre successeur.
Et quand on entend ces discours sur l'homme augmenté, voilà. Alors aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on entend ça justement. Ah oui, l'IA, ça va permettre d'augmenter nos employés. C'est un discours très très court-termiste, quoi.
C'est un poncif mensonger. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui vont pas être augmentés par l'IA. Et comme le Wall Street Journal le disait très bien il y a quelques jours, on voit que l'IA augmente les écarts entre les gens les plus doués, les plus intelligents, et puis les gens qui ont moins de facilité. C'est-à-dire en fait, l'IA est une machine à augmenter les bons et une machine à envoyer les pauvres, les mauvais dans la poussière. Donc l'IA n'est pas une machine qui réduit les inégalités, contrairement à ce qu'on a pu espérer. C'est une machine qui augmente les inégalités entre ceux qui maîtrisent les agents, qui savent orchestrer les agents, et puis ceux qui vont pas savoir, sachant que le principal métier au 21e siècle, ça va devenir l'orchestration des intelligences artificielles et des agents, mais ça va être un métier très compliqué.
Oui, compliqué. Et puis même dans les entreprises, hein, je parlais l'autre jour, je me disais, tiens, dans une banque comme BNP Paribas, il y a 200 000 personnes. S'ils se mettent tous à avoir ne serait-ce que 10 agents par personne, ça fait 2 millions de personnes à gérer. Et puis comment ça se passe quand la personne s'en va avec ses agents?
Dans une banque que je ne citerai pas, récemment, on vient d'interdire l'utilisation de l'IA pour faire les comptes rendus d'une réunion. Parce que les syndicats ont peur que ça supprime beaucoup d'emplois, parce qu'une bonne partie des gens dans les banques, ils passent leur journée à faire des réunions et à faire des comptes rendus de réunions. L'IA fait ça en quelques secondes. Donc ce serait un drame en termes d'emploi si on autorisait ce genre de technologie dans les banques.
Alexandre, qu'est-ce qui fait qu'un jeune doit lire ce livre ?
Si un jeune de ma génération veut comprendre le monde qui arrive, qui est à la fois fascinant, car il va y avoir...
Et qui est bien expliqué. Je trouve que les deux premiers chapitres, là, on est sur justement toute la partie santé, tout ça nous dit, voilà, on va justement rajeunir nos cellules. C'est assez passionnant, ça.
Mais oui, mais il va y avoir plein d'opportunités, on va vivre plus longtemps, meilleure santé, on va combattre le cancer. Donc, en cela, c'est un progrès absolument inouï, et c'est un futur très réjouissant, mais qui est également, et Laurent le rappelait, extrêmement vertigineux. Il y a plein de questions politiques qui vont se poser, on va avoir également un chômage qui va arriver dans certains secteurs, certaines branches. Je ne crois pas en la mort du travail, mais je crois qu'effectivement, comme le patron de Ford, ça va être très compliqué pour les cols blancs qui prédit que 50% des cols blancs vont disparaître à moyen terme. Ou encore Bill Gates qui, jusqu'à présent, pensait que l'humain va aller pouvoir travailler pour les 1000 prochaines années et qui aujourd'hui est revenu sur ses propos en disant que peut-être que le travail est une relique d'un ancien monde.
Deuxième partie du livre, au tout début, vivre plusieurs vies quand l'intelligence devient gratuite. Ça, il faut m'expliquer un peu.
À partir du moment où on vit plus longtemps, si la Silicon Valley a raison et réussit à nous rendre quasi immortels, on va faire plusieurs choses. On va avoir une vie qui sera non plus une voie de chemin de fer, mais un archipel. On pourra avoir plusieurs vies, plusieurs amours, plusieurs chemins de vie. Et d'ailleurs, dans le livre, Alexandre s'inquiète de savoir s'il va pouvoir aimer la même personne pendant 1000 ans, s'il va pouvoir aimer le même corps d'un point de vue sexuel, d'un point de vue charnel pendant 1000 ans. Il n'en est pas du tout persuadé.
Il n'y a pas besoin d'attendre 1000 ans pour avoir cette réponse. Lorsque vous regardez le taux de divorce en France, sur 10 mariages, vous avez 7 divorces. Donc, vous mettez ça sur 1000 ans, il y a assez peu de chances que l'amour passionnel puisse durer 1000 ans. En revanche, l'amour qu'on peut porter à ses enfants, à ses frères et sœurs, oui, celui-ci peut durer 1000 ans, bien sûr.
Ça veut dire, là, il faut qu'on ait des chefs d'entreprise qui parcourent ce livre, voilà, qui se disent, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'idées. Comme je disais au début, voilà, toute la partie sur la santé, enfin, tout le livre est passionnant, mais toute cette partie-là sur la santé, on se dit, ah, mais tiens, on va y arriver. Et puis derrière,
ils vont devoir se poser des questions. Il faut qu'ils évitent la démoralisation cognitive de leurs salariés, parce qu'il y a des salariés qui craquent. Ils se disent, mais ce que je fais en 3 jours d'habitude, Claude Cowork le fait en 2 minutes et qui déprime. Et si les patrons ne prennent pas conscience de ces bouleversements et de la dimension psychologique, ils risquent de déstabiliser leurs entreprises avec plein de gens complètement découragés qui vont pas se former, qui vont pas suivre derrière la technologie. Mais ça va pas être simple, parce que vous le savez bien, la technologie change tellement vite que beaucoup de salariés,
c'est ça qui est frappant,
de salariés se sentent totalement dépassés. Il y a encore un an, on se servait de ChatGPT et de Claude sous forme de chatbot en lui posant des questions et il répondait. Maintenant, l'enjeu, c'est les agents. Et les agents,
on les lance le soir et on
récupère. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que le simple chatbot.
L'IA menace les chercheurs d'implosion. Alors c'est vrai qu'on l'entend. Moi j'ai vu des chercheurs normal qui m'ont dit, mais moi il y a des choses, je les faisais en 15 jours, aujourd'hui c'est fait en quelques heures. On voit que même eux sont
le modèle de recherche publique à la française, avec des chercheurs sous-payés, sans moyens, qui doivent attendre des mois, des années pour avoir des nouveaux matériels, ça va pas le faire. Quand vous pensez que à l'INRIA il y a encore des chercheurs, des bons chercheurs, ceux qui ne sont pas partis chez les géants du numérique et qui sont payés au lance-pierre, avec des gens qui sont payés moins de 4000 euros par mois quand ils rentrent à l'INRIA en intelligence artificielle, les chercheurs en intelligence artificielle. Vous dites que vraiment on va dans le mur. Vous avez vu que Mark Zuckerberg donne maintenant des salaires en centaines de millions de dollars aux petits génies de l'orchestration des intelligences artificielles. Et l'INRIA paie ses chercheurs en intelligence artificielle moins cher qu'une femme de ménage à l'heure de travail. Ça n'est pas possible. Donc la recherche n'est pas adaptée à ce tsunami technologique, et là-dessus, l'État a vraiment tort de laisser pourrir la recherche publique au lieu de la moderniser et de changer, bien évidemment, la grille salariale des chercheurs qui sont en France totalement maltraités par rapport à ce que on leur donne en Californie.
Alexandre, justement, sur, voilà, comment on peut sauver l'humain justement quand on est jeune, comment on se projette.
Déjà avoir une classe politique qui commence à s'interroger, est-ce qu'il faut autoriser la sélection embryonnaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement pouvoir être complémentaire de l'intelligence artificielle, car ça va être le véritable enjeu du 21e siècle pour ma génération. Comment être complémentaire de l'intelligence artificielle, comment ne pas finir au revenu universel, comment avoir une place professionnelle face aussi aux générations qui vont être augmentées et sélectionnées. Ça, c'est la vraie question, il me semble, pour ma génération.
Messieurs, je vous remercie. Laurent Alexandre, Alexandre Tsikopoulos, Vivre mille ans. Je vous le conseille, hein, vraiment. Ça se lit, en plus, ça se parcourt assez vite, il faut le dire. Enfin voilà, quand on est passionné de ces technos, on lit, on tourne les pages à la vitesse d'une série Netflix, hein, vous voyez. et je trouve que voilà, il y a toute la partie vraiment vivre mille ans, comment on va travailler pour se rajeunir nos cellules. Et puis toute cette partie qui interroge justement sur l'avenir du travail, l'avenir de notre société. Donc c'est vraiment merci de nous avoir nous faire part de vos réflexions à tous les deux. On peut continuer bien entendu à suivre vos échanges sur les réseaux sociaux. Voilà, donc aux éditions, je le rappelle, Bûcher Chastel, en vente à partir du 14 mai. Hein. Certainement.
D'ailleurs demain.
C'est vrai. c'est demain. J'avais l'impression qu'on était déjà très loin de tout ça. Non, c'est demain.